Une proposition, et si on arrêtait d'être utile ?
Ben oui, et figurez-vous que je suis enseignant de philo et qu'il n'est pas rare dans mon activité de faire face à une question redoutable. Souvent, en début d'année, on me demande, mais monsieur, la philo, en fait, ça sert à quoi ? Et quand j'entends cette question, ben moi j'entends une forme de menace, parce que j'ai l'impression que si je ne parviens pas tout de suite à défendre mon utilité, je risque de disparaître. Alors, ben, je me surprends à répondre, je me justifie, ben, j'explique que la philo, ben, c'est très utile en fait, ça développe l'esprit critique, ça aide à structurer la pensée, et que d'ailleurs, les entreprises recherchent justement des profils capables de réfléchir. Et là, je m'entends parler, et en fait, j'ai un peu honte. Parce qu'en me justifiant, en fait, j'ai déjà perdu. J'ai accepté le tribunal de l'utilité, j'ai admis que la question « à quoi ça sert ?» était une question légitime.
Et vous, Mathieu, vous trouvez que la question de l'utilité est une question violente ?
Ben oui, parce que la question « à quoi ça sert ?» c'est pas du tout une question innocente, c'est une question de bourreau. Oui, carrément bourreau, parce qu'elle ne demande pas ce que vous êtes, elle demande en fait ce qui justifie qu'on vous garde. Car c'est ce que l'on fait dans notre monde, avec les choses inutiles, on les jette, hein, cette vieille machine à écrire qui traîne dans le grenier, cette bosse au milieu de la pelouse qui gêne la tonte, ou encore cet outil ancien qui n'a plus de raison d'être à l'heure des machines. Kant, le philosophe allemand, hein, avait trouvé la formule exacte, il disait « ce qui a un prix peut être remplacé par un équivalent, et ce qui a une dignité, par contre, n'a pas de prix. » Autrement dit, dès qu'on peut calculer votre utilité, eh bien, on peut aussi calculer le moment où vous serez remplaçable. Demander à quelqu'un à quoi il sert, c'est déjà le traiter comme une chose, comme un outil qu'on évalue et qu'on rangera au placard quand un meilleur outil se présentera.
Et donc, ce matin, vous nous proposez de défendre l'inutile.
Eh bien non, parce que je crois... Eh oui, c'est plus complexe. Je crois que cette posture de défendre l'inutile, bah, c'est aussi un piège. En fait, ce serait trop facile et surtout, ce serait encore jouer le jeu, vous savez, de prouver que l'inutile est en fait secrètement utile. Hein, comme beaucoup essayent de le faire, on va dire que la poésie développe l'empathie, que la musique renforce les connexions neuronales ou que la philosophie améliore les soft skills. Cette défense-là, en fait, c'est une forme, je crois, de capitulation déguisée. Elle revient à dire « ne vous inquiétez pas, on sert quand même à quelque chose. Laissez-nous vivre, on vous sera rentable. » Non, je pense qu'il faut aller encore plus loin et peut-être se dire que cette obsession de l'utile, elle n'est pas seulement injuste, en fait, elle est triste. Elle produit un monde utile, certes, mais triste, car la joie, ça n'a rien à voir avec ce qui est justement pratique ou utile. Il faut pour voir cela aujourd'hui, voir qu'aujourd'hui, absolument tout dans notre société doit être rentable. Le philosophe coréen Byung-Chul Han, j'espère que je prononce bien, parle de ça dans son livre « La société de la fatigue », dans lequel il explique qu'on est passé, selon lui, hein, d'une société anciennement où on obéissait à une autorité, à aujourd'hui une société de performance dans laquelle c'est nous-mêmes qui allons nous exploiter. Il n'y a même plus besoin de patron, nous sommes nous-mêmes notre propre contremaître, dans la mesure où chaque moment de repos va être pour nous-mêmes suspect. Chaque plaisir doit être absolument converti en bénéfice. Même la grasse matinée, elle, doit servir à recharger les batteries, comme si nous étions finalement des appareils.
Oui, vous avez raison, enfin il a raison... Byung-Chul Han.
Bon,
alors, quelle alternative, Mathieu, on pourrait trouver alors à ce culte de l'utilité ?
Eh bien, j'ai retrouvé un vieux mot grec que j'aime beaucoup, c'est le mot « skolé ». Skolé qui a donné école, hein. Il signifie le loisir. Attention, mais pas le loisir où nous l'entendons, hein. Pas le dimanche après-midi comme récompense de la semaine productive, non. La skolé, c'est le temps libre en tant que tel, c'est-à-dire du temps qui n'est au service de rien, qui ne prépare rien, qui ne récupère rien, le temps où l'on pense parce qu'on pense, le temps où l'on existe sans justification. Et c'est de ce mot, hein, que vient école, car oui, l'école était à l'origine ce lieu de l'inutilité magnifique. Alors évidemment, il faut mesurer la taille aujourd'hui de la trahison, hein, à l'heure où l'on formate de plus en plus quand même l'enseignement, justement en compétences qui seront exploitables sur le marché du travail. Alors, et si on arrêtait d'être utile, hein, non pas pour devenir paresseux, indifférent ou parasitaire, hein, parce que ce serait encore raisonné en termes d'utilité, mais par la négative. Non, si on arrêtait d'être utile pour retrouver l'expérience de ce qui n'a pas besoin de se justifier pour exister. Aristote, le philosophe, disait que d'ailleurs c'est la seule chose qui vaille, c'est de retrouver cette chose étrange et magnifique, être là sans raison. Après tout, on peut se dire que la vie elle-même, au final, n'est pas utile, elle ne sert à rien. Nous finirons tous en poussière, je vous l'affirme. Et ce constat n'est pas grave si on parvient à trouver que le simple fait d'exister, eh bien, se justifie à lui-même.
Merci Mathieu Pelletier, c'était très intéressant. Une